Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Très bonne soirée avec nous, avec le club sang et or, votre magazine football qui parle de l'actu du Rodez Aveyron Football. Jean-Charles Virlogieux est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec notre invité, on va revenir sur la rencontre contre Laval. On va se projeter également sur le déplacement à Angers. Le défenseur de Rodez, Stone Mambo, qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Une émission en deux parties jusqu'à 20h30 à la radio. On parle de la Ligue 2 et de la rencontre frustrante de ce samedi dernier. Et ensuite, une deuxième partie où l'on va revenir sur le parcours, votre intégration également au sein du club du Rodez Aveyron Football. Et puis sur votre physique, puisque vous êtes sorti blessé ce samedi contre Laval. On essaiera de prendre quelques nouvelles de votre cuisse, il me semble, c'est ça,
c'est Son ça.
Avec notamment l'infirmier Jean-Charles Virlogieux.
Vous avant le de savez, lancer les hostilités, ouais.
Oui. Vous le savez, il y a un rendez-vous que apprécie tout particulièrement Jean-Charles Virlogieux, c'est ce rendez-vous-là.
Je n'ai pas dit que tu étais un con, hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
Alors, vous n'y aurez pas droit, Stone. C'est un rendez-vous, généralement, qui parle de football, mais d'une manière un peu décalée. On va le simplifier comme ça. Alors, ça ne sera pas une question à la con au fil de ce club sans heure, mais plus un medley à la con.
Pour vous souhaiter la bienvenue.
Jugez-en par vous-même.
This is Mambo number 5.
Que vous le sachiez tout de suite, je me désolidarise de tout ça. Et évidemment, bon, en tout cas, c'est un petit clin d'œil pour votre passage ici.
Ouais, il y a peut-être. Est-ce que vous avez une préférence entre les trois morceaux là? Est-ce que vous les connaissez tous les trois?
Je connais les trois et j'ai une préférence pour Mambo number 5.
Ah voilà. Mambo Lou number 5, vous êtes Mambo number 4. Hein.
C'est ça.
En plus,
d'accord.
C'est vrai. Ouais, effectivement. C'est vrai. Belle ref. Bravo Jean-Charles, c'est la référence concernant le maillot de Stone Mambo qui est notre invité ce soir. On va revenir sur cette rencontre. Oui, on va arrêter de rigoler 5 minutes et on va revenir quand même sur des choses un peu plus sérieuses. Et ce match à l'épilogue douloureux pour Rodez, on sait que beaucoup de joueurs avaient du mal à digérer ce scénario de samedi. Être mené 1-0, revenir à 1 partout et puis se faire passer devant dans les dernières secondes avec un peu de recul. Vous êtes toujours énervé de ce scénario?
Énervé, non, parce qu'il faut passer à autre chose. Le match, il est passé, donc on va essayer de tirer les leçons de cette défaite, mais voilà, on est déjà projeté sur le prochain match.
Bon, on va revenir évidemment sur le match contre Laval avec vous, Stone. Est-ce que Rodez a été mal payé, selon vous, sur cette rencontre?
Je pense que le match nul aurait été plus logique par rapport au scénario de la rencontre. Après, je pense qu'en football, parfois, il ne faut pas chercher de logique. Hein. S'ils ont gagné, c'est que voilà, ils sont allés chercher leur victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait, et pas nous, tout simplement.
Donc la seule logique du football, c'est que c'est illogique.
On peut dire ça.
Une victoire qu'ils sont allés chercher à la main, on aura l'occasion d'y revenir. On a le sentiment que Rodez a plutôt fait le match qu'il fallait tactiquement. Mais que bah, la vérité, on le sait, hein, se situe dans les deux surfaces. Et là, ça a coincé. On va écouter la réaction de Kylian Corredor, pour qui Rodez n'a pas forcément tout fait pour éviter cette déconvenue.
Je pense que les décisions arbitrales, elles sont comme elles sont. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur nous. Ce soir, on prend deux buts sur CPA. Voilà. On savait que c'était une équipe redoutable sur ce fait de jeu. Donc voilà, c'était à nous d'être vigilants, on ne l'a pas été et on le paye cash. Un sentiment de frustration, clairement dégoûté, parce que je pense que sur le match, on mérite mieux. Après voilà, on va retourner au travail pour essayer d'engranger le maximum de points sur les prochaines échéances.
CPA, coup de pied arrêté.
Oui,
vous savez, je fais comme dans les pubs.
Faut préciser.
Black Friday veut dire vendredi noir.
Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais après, pour les non-amateurs, c'est pratique de préciser. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre attaquant?
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Surtout sur le fait que voilà, on n'a pas pour habitude de se plaindre de l'arbitrage. On a plutôt tendance à regarder ce que nous on a fait, de bien ou de pas bien. Et comme il a dit, on était prévenus. Leur force, c'est les coups de pied arrêtés. Et malheureusement, on prend deux buts sur ces phases-là. Malgré tout, je pense qu'on a quand même été solide. On n'a pas concédé énormément d'occasions. Sur le peu qu'on a concédé, Seb a fait les arrêts qu'il fallait. Mais peut-être qu'on aurait pu mettre un peu plus de folie pour se créer peut-être un peu plus d'occasions. Mais bon, je pense que c'est une très belle équipe aussi en face. Et c'était un match difficile.
Ouais, parce qu'on sait aussi que la philosophie de Rodez cette année, c'est bon, c'est pas très grave de prendre des buts tant qu'on en marque. Mais là, c'est vrai que vous le disiez, Rodez a failli aussi. Des occasions, il y en a eu, mais qui ont manqué de justesse. Rodez a frappé 17 fois au but, mais n'a cadré que 3 fois. Pourquoi, à votre avis?
Pourquoi? Je dirais déjà que par rapport à d'autres matchs, c'était une défense contre laquelle c'est difficile d'avoir des occasions nettes. Et donc de se mettre dans des situations favorables. Faudrait revoir un peu les tirs, mais je pense que c'était des tirs dans des situations compliquées, donc forcément ça réduit les probabilités de but.
Ouais, les fameuses expected goals.
C'est ça exactement. Et ouais, après ouais, une défense solide, un bon gardien en face, et parfois aussi elle manque de réussite. Et tout ça fait que bah, on n'a pas réussi à marquer autant que d'habitude.
Ouais, on a vu pas mal de tirs de loin.
Frapper loin, ça a été des consignes données à un moment de la saison, parce qu'on voyait Rodez ne pas tenter sa chance d'une manière plutôt lointaine. Il a fallu finalement tenter des tirs presque improbables, des reprises de volée qui sortaient des coups de pied arrêtés, justement, à la suite de corners envoyés par la défense. Là, c'est compliqué de marquer, ou alors c'est le but de l'année, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, il faut toujours prendre sa chance. Hein. On a des joueurs de qualité qui peuvent mettre des buts de loin, donc... Tous les moyens sont bons pour marquer, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'était avec leur défense à 5, ils étaient très groupés, c'était très difficile d'avoir des bonnes positions de tir.
Oui, elle vous a empêché aussi de vous approcher du but, cette équipe, oui.
Exactement, c'est ça. Ouais.
Alors, votre coach a trouvé qu'en première mi-temps, votre équipe n'avait pas su aller au bout de ses actions aussi, que ça venait aussi de votre équipe, mais que ça avait été corrigé après la pause.
Ça ne se jouait pas à grand-chose, quoi. Il fallait avoir plus de folie vers l'avant, un peu plus de déchets, ce que j'aurais demandé à la mi-temps, ce qu'ils savent faire, et que des fois, ils voulaient jouer trop sûr. Il y a 2-3 actions sur le côté où Hakim met des bons ballons qui sortent, ça faisait courir, ça passait pas loin chaque fois, il fallait continuer, et parfois, ben, on n'osait pas mettre le ballon, mais voilà, tu le règles à la mi-temps, après, ben, voilà, ils remettent leur jeu en place. Puis bon, il y a un adversaire qui était sûrement plus en forme en première mi-temps et qui te tient plus. Et puis en deuxième, au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, ça devenait plus dur. Donc pour nous, ça a commencé à pousser fort. Mais là-dessus, j'ai rien à reprocher.
Didier Santini, le coach du Rodez Aveyron Football, Stade Bombo, qui était avec nous dans notre studio à l'occasion de ce club 100 heures. Quand on a un coach qui dit faudrait qu'on ait plus de déchets, c'est rare quand même d'entendre ça dans la bouche d'un entraîneur.
Ouais, c'est vrai que c'est rare. Mais je pense que quand il veut dire ça, c'est prendre plus d'initiatives et tenter plus de choses, quitte à rater finalement. Parce que si on tente que des passes, si on essaie d'assurer nos passes et de ne pas prendre de risques vers l'avant, on avait très peu de chances de mettre en difficulté ce bloc. Et de toute façon, à tous les matchs, le coach nous demande de jouer vers l'avant, de prendre des risques dans nos passes. Pour obtenir le plus d'occasions possible.
C'est un discours qui n'est pas forcément conventionnel, en tout cas pas dans les médias. Les coachs s'expriment très rarement là-dessus, en tout cas pas avec ces termes-là. C'est la première fois que vous voyez un coach qui vous donne ces directives-là ?
En ces termes, peut-être. Après, ouais, c'est vrai que ça dépend des coachs.
Il y a des coachs plus frileux.
C'est vrai, il y a des coachs plus frileux. Bon, si vous leur demandez, ils ne diront pas ça. Ils ne diront pas qu'ils sont frileux, mais c'est juste que... Ouais, en tout cas, le coach nous demande d'oser, de tenter, en fait. Parce qu'il sait aussi qu'il a un groupe avec de la qualité technique et que finalement, dans un match, la pire des choses, c'est d'avoir des regrets à la fin, de se dire qu'on a joué petit bras et qu'on n'est pas allé au bout de nos idées. Et il préfère qu'on tente, qu'on ose, quitte à ce qu'il y ait du déchet, mais au moins, on donne tout ce qu'on peut donner.
Et c'est vrai que des coachs qui disent qu'ils préfèrent un 3-2 à 1-0, il n'y en a pas tant que ça. Au final, la perception qu'on a de ce match, elle change quand même beaucoup à cause de ce but de la dernière minute. Parce que autrement, le nul qui se dessinait face à la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, on le rappelle, ça n'avait vraiment rien d'infamant comme résultat. Même si Rodez aurait aussi pu espérer encore mieux avec peut-être ce pénalty autour de la 75e minute après une chute de Lucas Bedes dans la surface. L'arbitrage de ce match a beaucoup fait parler d'ailleurs. Et il y a quand même plusieurs raisons, plus ou moins objectives. On va tenter de les passer en revue une par une. Alors, il y a d'abord cette mi-temps sifflée très vite alors que Rodez était à l'attaque. C'est vrai qu'on attend généralement une accalmie pour le siffler. Là, M. Landry a estimé que l'heure, c'est l'heure, au grand désarroi des 100 et or. Ça, c'est la première. Ensuite, il y a ce coup franc qui amène le premier but. Il est vraiment généreux pour une faute de Bradley Danger sur Chokounte. Et donc, il y a ensuite ce possible pénalty. On va y revenir dans le détail parce que c'est une des actions qui mérite le plus débat. Buades est au duel avec Cherny, mais ce bougre de piston ruthénois est rapide. On l'a vu d'ailleurs, hein, Corentin, plusieurs fois passé devant ses adversaires durant ce match. C'est le cas sur cette action et voilà comment il l'a vécu.
Pour moi, je prends le dessus sur le défenseur, je passe devant lui. Et au moment de centrer, il me pousse dans le dos. Donc pour moi, ce n'est pas un duel épaule-épaule. Donc il faut que je revoie les images, mais il me semble que le défenseur me bouscule dans le dos et me déséquilibre. Donc Je sais pas, je vais revoir les images après. Forcément, c'est très énervant. Forcément, j'en discute parce que pour moi, c'est quand même litigieux. Je me dis que c'est un duel épaule-épaule, mais j'en doute fortement. Après, peut-être que je me trompe, il faudra que je revoie les images.
Voilà, il me dit, c'est M. Landry. Alors, en direct, on a l'impression que, c'est vrai, moi je l'ai senti comme ça, Lucas accentue peut-être un peu sa chute, mais sur les images, clairement, Cherny le pousse dans le dos, avec l'épaule, certes, mais dans le dos, et c'est peut-être là l'ambiguïté de la chose. Tant que vous ne vous servez pas de votre bras, est-ce que vous êtes dans la légalité, même si vous ne poussez plus l'épaule de votre adversaire? Il fallait un professionnel pour tirer ça au clair, un professionnel sans langue de bois, et on a donc fait appel à Saïd Njimi, ancien arbitre professionnel, président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On l'a déjà sollicité d'ailleurs pour des cas épineux d'arbitrage. Alors sur ce coup-là, Saïd Njimi, pénalty ou bien?
Le joueur de Rodez avait pris l'avantage. Donc il y a pénalty sans aucune discussion. D'ailleurs, il est clairement poussé dans le dos. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de combat en quelque sorte pour la lutte pour le ballon, pour pouvoir s'en emparer de manière équitable. Son adversaire l'a poussé dans le dos et malicieusement tombe avec lui, ce qui peut être de nature, si vous voulez, à mettre le doute dans la tête de l'arbitre. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi l'assistant qui était dans une position très favorable puisqu'il était dans la perpendiculaire et qu'il aurait pu le détecter. Donc, c'est assez surprenant, surtout qu'ils étaient proches tous les deux de l'action. Bon, ça arrive. Ça m'est arrivé aussi à de nombreuses reprises. Mais pour répondre à votre question, il y avait bien pénalty en faveur de Rodez.
Alors, est-ce qu'il a pu être trompé par le fait que le joueur soit poussé de l'épaule? Ça, on n'est pas dans
oui,
sa tête.
Oui, absolument. Non, mais c'est absolument ça. À vitesse réelle, ça va très, très vite. Et les yeux des humains, même si ça peut paraître extrêmement grossier pour tout un chacun qui regarde après coup la vidéo, il arrive parfois que l'œil humain n'arrive pas à détecter la lutte équitable pour le ballon que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure, alors qu'en réalité, on le voit bien, clairement, le joueur de Rodez avait pris l'ascendant et le joueur de Laval l'a clairement poussé dans le dos.
Bon, c'est ce qu'on peut appeler une erreur manifeste. On attend l'arrivée de la VAR avec impatience. Normalement, ça devrait arriver l'année prochaine en Ligue 2. Votre avis sur la question, Stone Mambo, pénalty, pas pénalty?
Je pense qu'il y a pénalty. Je pense qu'il y a pénalty. Après, comme ça a été dit, je pense que c'est pas le. Je suis pas là pour commenter les décisions des arbitres ou pour charger les arbitres. Voilà. On sait que c'est très difficile, ça va très vite, etc. Donc. Voilà, je pense qu'il s'est trompé, puis voilà, tout simplement.
Dans la situation adverse, vous êtes défenseur, vous faites cette petite faute, vous êtes heureux de vous en sortir sans pénalty.
Évidemment.
Voilà. Voilà pour l'épisode du pénalty. On va passer en revue toutes les questions qui fâchent, puisqu'on a eu la chance d'avoir le regard éclairé de cet ancien arbitre professionnel, Saïd Njimi. Il y a ce coup franc donc sifflé dans les arrêts de jeu, lourde conséquence pour une faute justement de Lucas Boadez, ici au cœur de l'action, et bah, okay, d'ailleurs écopé même un carton jaune pour cette faute. Alors d'abord, le coup franc. Oui, il y a faute de Lucas Boadez, un croc en jambe. Alors certes, pas évident, à vitesse réelle, mais là, M. Landry était là aussi bien placé et a pris la bonne décision.
Dans la perpendiculaire.
La fameuse perpendiculaire. Bon, il fallait éviter cette faute. Ça aussi, votre coach Didier Santini l'a reconnu, écoutez-le.
Je pense qu'on doit faire mieux quand même sur le dernier coup de pied arrêté. On ne doit pas faire faute. Et il est tout seul et après, on doit se faire avoir un peu stupidement. Quoi. Au second poteau, deux seuls. Pas bon. Après, il y a la fatigue aussi, tu as moins de... Mais bon, il faut passer au-dessus et puis c'est comme ça. On ne peut pas refaire le dernier coup franc.
Ouais, donc coup franc valable, Didier Santini qui regrette aussi le marquage. Bon, vous pouvez respirer, Stone, c'était pas pour vous, vous étiez déjà sorti. Mais ça n'autorise pas pour autant à marquer du bras. Votre coach n'avait probablement pas encore revu les images juste après le match. But inscrit du bras par Dio, c'est la main de Dio, si vous me permettez.
Bravo.
Elle aurait dû être refusée, mais on dit jeu de main, jeu de vilain, mais on dit aussi pas vu, pas pris, hein, vous savez.
Vous les enchaînez, dites-moi ce soir.
N'est-ce pas? Et alors pour ce qui est du carton... c'est vrai qu'il peut paraître un peu sévère pour le croquant-jambe de Lucas. Ce qui interpelle surtout, ce qui a fait causer un peu, c'est ce commentaire lâché par Lucas Boadez après le match.
J'ai pas trop compris le commentaire de l'arbitre qui me dit j'attends de te le mettre. Faudrait que j'en discute avec lui. Après, voilà, c'est comme ça.
Bon, avec lui, c'est avec monsieur l'arbitre, et évidemment, on l'a bien compris, avec monsieur Landry. Mais vous, en interne, est-ce que vous en avez discuté avec Lucas Boadez de cette fameuse action?
Et de ce fameux commentaire.
Du commentaire, non.
Non.
De l'action, pas vraiment, en fait, parce que tout de suite après le match dans le vestiaire, le coach entre guillemets, très vite désamorcé ça en disant que voilà, il y avait, enfin, la faute était évitable, le but aussi, mais enfin, ça arrive. Hein, comme il a dit ce matin, si à chaque fois qu'on faisait une faute, on prenait un but derrière et qu'on s'en prenait à la personne qui avait fait la faute, on n'arrêterait pas en fait. Donc, je pense que c'est des faits de jeu et puis faut passer à autre chose, tout simplement.
Un petit manque de lucidité quoi sur l'action.
C'est ça, c'est okay. Ça.
Ouais. En tout cas, c'est vrai que ce commentaire de Lucas en zone mixte a un peu jeté le trouble. Certains observateurs n'ont pas manqué de souligner que M. Landry était originaire d'Annecy, ce qui, après quelques décisions litigieuses, a pu encourager certaines interprétations chez les supporters. Alors, rappelons quand même, un illustre confrère me disait, après une polémique du même genre, que la paranoïa était la chose la mieux partagée dans le monde du football. Un arbitre peut-il manquer de probité, en particulier en haut lieu? Et ben là-dessus, on a demandé l'avis également à Saïd Njimi et il est catégorique.
Non, pas une seconde, parce que, alors, pour répondre de manière très, très pragmatique, les arbitres sont notés à tous les matchs. Ils sont également, ils font également l'objet de rapports vidéo, hein, puisque la direction de l'arbitrage regarde également les vidéos. Il faut savoir qu'ils sont désormais correctement rémunérés. Donc, à la fin de la saison, en cas d'accumulation d'erreurs, eh bien, c'est la rétrogradation qui leur pend au nez. Donc, je ne pense pas, si vous voulez, quand bien même que les arbitres puissent être nés dans une ville, qu'ils choisissent sciemment de faire perdre ou de désavantager une équipe, alors que tout le monde voit tout en temps réel et qu'ils jouent en quelque sorte à chaque match leur carrière professionnelle. Donc non, j'en suis persuadé aussi sur le plan humain, parce que quand on se lance dans l'arbitrage, c'est pour être équitable et ce n'est pas pour désavantager ou avantager une équipe. Donc il y a une vraie construction intellectuelle qui se fait depuis tout petit. Ça, c'est la première raison. Mais je vous ajoute celle que je viens de vous donner pour vous indiquer que ça serait suicidaire pour un arbitre de vouloir essayer d'avantager une quelconque équipe.
On ne devient pas arbitre par hasard, nous dit Saïd Njimi. Puis effectivement, mettre sa carrière en danger, c'est probablement pas une très bonne idée. Il faut rappeler aussi que Rémi Landry est un jeune arbitre, hein, pas encore 33 ans. La dernière fois d'ailleurs qu'on avait décrypté en profondeur une décision arbitrale dans ce club sang et or, est-ce que vous en souvenez, Corentin ?
Marvin Senaya.
Exactement, c'était pour le match à Pau la saison dernière où le but de l'égalisation paloise avait été accordé parce que Marvin Senaya
était encore au
sol, le hors-jeu voilà, dans un coin du terrain. Et au sifflet, il y avait William Touliou, 31 ans. Et à l'époque, Saïd Njimi nous avait dit qu'un arbitre expérimenté aurait sifflé et interrompu l'action pour pas se retrouver dans le pétrin. Donc voilà, la jeunesse, elle joue aussi. Alors, bien sûr, il y a cette petite phrase toujours qui reste en mémoire, j'attendrai de pouvoir te le mettre. Mais là aussi, Saïd Njimi tient à rappeler que dans un match, eh ben, les propos peuvent parfois déraper dans le feu de l'action.
Oui, complètement. Alors, vous savez, c'est un peu une confrontation permanente entre des joueurs qui, il faut le dire, sont parfois très ou trop malicieux, à tout faire pour essayer d'obtenir des pénalties, à tout faire pour essayer de faire avertir ou exclure leur adversaire. Donc c'est pas forcément, si vous voulez, facile à vivre pour l'arbitre qui doit rester, lui, extrêmement froid en toutes circonstances. Mais comme nous ne sommes que des hommes, il arrive parfois que des mots sortent complètement hors propos vis-à-vis de la situation et qui mettent mal à l'aise les uns et les autres. Mais en réalité, si vous voulez, ce qui compte, c'est que, comme je vous le disais, que l'arbitre garde son sang-froid en permanence, qu'il ne prenne pas pour argent comptant ou pour lui-même les éventuels pics que pourraient lui adresser les joueurs. C'est le meilleur moyen de s'en sortir sans encombre, et c'est surtout le meilleur moyen de construire de la confiance vis-à-vis des joueurs, parce que le sujet est aussi là. Il faut que les joueurs se disent, tiens, c'est tel arbitre qui vient aujourd'hui, il est juste, il est honnête, et il n'y aura pas de souci, quand bien même il y ait un mot de trop, vis-à-vis d'un joueur. Je ne sais pas ce qui s'est dit, hein, entre l'arbitre et les joueurs, naturellement. Après le rapport entre les hommes, bon, bah, des fois, on se rentre un peu dedans. Ce qui compte, c'est d'être courtois et respectueux. Mais pour Rodez, comme pour Laval, comme n'importe quelle équipe, ce qui compte, c'est que le pénalty soit bien sifflé. Ce qui compte, c'est que le carton rouge soit bien mis. À haut niveau, il n'y a que 2, 3, 4 interventions majeures pour les arbitres. Ça joue bien au ballon, vous voyez. Donc, on prend beaucoup de plaisir les arbitres, mais il y a 2, 3 sujets sur lesquels les joueurs attendent, les dirigeants, les spectateurs attendent pas la perfection, mais pas loin. Et si la vidéo doit arriver en Ligue 2 la saison prochaine, elle pourra peut-être faire du bien sur l'action que vous évoquez, là, sur la faute de main.
C'est sans conteste, effectivement, cette VAR qui va arriver normalement à partir de la saison prochaine. La main de Diou, donc, effectivement, on en a parlé avec Jean-Charles Vire-le-Jeu. Stone Mambo, vous avez déjà eu des échanges un peu moins cordiaux avec les arbitres?
Non, en fait, en général, moi, j'essaie de jamais parler aux arbitres. Franchement, j'essaie de...
On n'y gagne rien ?
On n'y gagne rien. Ils ont toujours raison, même quand ils ont tort. Donc, généralement, ça ne sert à rien. Mais après, moi, la seule chose que je trouve dommage parfois, c'est qu'ils sont fermés, en fait, et qu'il manque un peu de pédagogie. Et que parfois,
le manque d'échange ?
Ouais, le manque d'échange, en fait. Après, je comprends parce que parfois, les joueurs, ils peuvent être virulents, arriver de manière un peu agressive. Donc, ils se mettent dans une forme de protection. Mais je pense que des fois... juste parler, en fait, expliquer une décision, mais de manière calme, relaxe, bah, ça ferait du bien à tout le monde. En fait.
C'est intéressant parce qu'en discutant avec Saïd Njimi, en préparant cette émission, il nous expliquait que les arbitres étaient très bien formés techniquement, effectivement, mais qu'il y avait probablement mieux à faire dans l'approche psychologique, dans la façon de garder ses nerfs et probablement de communiquer aussi avec les joueurs, avec le staff. Aussi en amont d'un match. Exemple, vous revenez à Rodez pour arbitrer un match, peut-être vous commencez par dire la dernière fois, effectivement, j'ai sûrement oublié un pénalty, je suis désolé. Voilà. Commencez par désamorcer ces bombes-là et éviter que l'équipe se dise alors qu'est-ce qui va nous préparer aujourd'hui, comment on va se faire arnaquer. Voilà.
Deux questions pour terminer cette première partie du Club 100 heures avec vous, Stone Mambo. Est-ce que la VAR est une bonne chose, selon vous?
Est-ce que la VAR est une bonne chose? Je pense que c'est une question difficile. Je pense que c'est une...
Vous n'êtes pas catégorique.
Non. En fait, je pense que c'est une bonne chose, mais qu'au final, l'interprétation, elle revient toujours à l'humain. Et que... Bon, on voit, en fait, je pense qu'il y a autant de débats aujourd'hui
qu'avant.
Mmh. Donc, ça, c'est difficile.
Donc, vous n'êtes pas forcément pour?
Non, c'est pas que je ne suis pas forcément pour. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne avancée. Mais je pense que les arbitres doivent aussi, pareil, continuer de... dans leur manière d'interpréter les actions, dans leur manière de lire le jeu, en fait, être moins robotique, en fait, je trouve.
Et la sonorisation des arbitres?
Ça, c'est, je pense que ce serait une très, très bonne chose.
Pourquoi?
Parce que il y aurait plus de transparence. Et en fait, j'ai l'impression que sur un terrain de foot, tout le monde fait des erreurs. Et quand je fais une erreur, par exemple, je peux aller m'expliquer en conférence de presse, entend ce que je dis. Pareil pour les coachs. Et en fait, on fait comme si les arbitres étaient hors du jeu, alors qu'en fait, ils font partie du jeu. Ils peuvent, à certains moments, ils peuvent déraper. À certains moments, ils peuvent dire des choses. Et c'est les joueurs qui peuvent déraper. Au moins, on saurait en fait ce qui se passe.
Mmh. Il y a quelques petits efforts qui sont faits pour ça. On sait qu'on envoie de temps en temps un arbitre expliquer telle ou telle décision, mais c'est rare.
C'est rare. Il y a quand même encore
du boulot.
Ouais, c'est quand même assez rare, effectivement. Stone Mambo, notre invité dans ce Club 100 heures. On va revenir avec vous dans une deuxième partie sur, évidemment, la rencontre qui nous intéresse ce samedi. Vous allez vous déplacer sur la pelouse de Angers. Alors, pour votre participation, pour l'instant, on va mettre, évidemment, un petit voile parce qu'on va également prendre des nouvelles de votre santé. Vous êtes sorti ce samedi en première période. On va revenir sur tout ça dans la deuxième partie du Club 100 et Or.
Totem, le Club 100 et Or. Totem, le Club 100 et Or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Deuxième partie avec notre invité Stone Mambo et Jean-Charles Virlogeux, toujours en studio évidemment pour le Club 100 et Or. On poursuit rapidement la discussion sur la VAR, si vous voulez, Jean-Charles. On a eu l'avis de Stone Mambo par rapport à cette question de VAR et à la sonorisation des arbitres. On n'a pas eu l'avis de Didier Santini, votre coach. Est-ce que ça vous intéresse de savoir s'il partage votre avis ou pas?
Ouais, pourquoi pas.
Bon, et ben ça tombe bien. L'avis de Didier Santini par rapport à la VAR. C'est tout de suite.
Écoute, si ça avait en Ligue 1 et qu'on est pro, je vois pas pourquoi on l'aurait pas nous non plus. Et j'espère qu'ils mettront pas le nombre de minutes que je vois à choisir une décision et que les décisions avec l'expérience soient plus intelligentes et les mêmes pour tout le monde. Après, je regarde pas tout le temps. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami qui est patron des arbitres, qui s'occupe de regarder. Et je lui disais, mais moi, des fois, vous êtes dans votre camion, je vois le truc, mais moi, en 10 secondes, je dis, il y a pénalty ou pas pénalty. Donc prenez les anciens joueurs. Au moins, tu le ressens un peu plus, tu sens le coup avant, quoi. Moi, je suis pour ça dans la surface, je suis pour ça dans certains trucs. Maintenant, quand le mec il part de 5 cm hors jeu de la ligne médiane, je ne suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Parce qu'il a la tête en avant ou le bras devant, je ne suis pas d'accord. 5 cm, ça fait la différence dans la surface de réparation. 5 cm, à partir du milieu de terrain, ça ne fait pas de différence. Ou alors, tes défenseurs, ils sont nuls. Voilà, je le dis franchement.
Vous avez compris, Stone. Hein, si vous vous faites griller pour 5 cm au niveau de la ligne médiane...
5 cm, ça a donc son importance. Future reconversion, ça vous dit d'être arbitre VAR en tant qu'ancien joueur?
Pas du tout.
Dans un camion.
Dans un camion.
Pas du tout.
Bah, d'avoir des burgers à volonté, selon la pub. Non, ça vous dit pas non plus ?
Non, non.
Toujours avec ces petits privilèges ? Bon, on aura tout essayé. Dommage. On va se projeter sur la rencontre de samedi face à Angers. Le RAF qui va se déplacer donc sur cette pelouse. Angers qui aurait pu être le leader de cette Ligue 2, malheureusement. Pour les Noirs et Blancs, ils n'ont pas pris de points face à Bordeaux hier soir en s'inclinant 1-0. Pourtant, Angers qui contrôlait un match, qui était même proche de rentrer à la mi-temps avec un score favorable. Et pourtant, hein, l'adage dominé n'est pas gagné, a encore prouvé ses effets. Et aussi qui n'ont pas été forcément vernis par l'arbitrage. Angers qui aurait pu bénéficier d'un pénalty en fin de rencontre. Angers donc deuxième de Ligue 2, un club qui tente de faire le coup de l'ascenseur, mais de remonter cette fois. Rappelons que le club a connu une saison compliquée l'année dernière, seulement 3 victoires et 5 matchs nuls en 32 journées, qui est donc dernier du classement et qui est donc descendu après 6 ans d'affilée en Ligue 1. Un club qui a fait 6 recrues phares durant l'été, parmi lesquels Ibrahima Niang, l'attaquant de Metz, ou encore Joseph Lopi et Jordan Lefort, qui sont venus renforcer le domaine défensif. Beaucoup d'expérience dans cette équipe, notamment avec Pierrick Capel, 36 ans, capitaine d'Angers, plus de 300 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à son compteur. Loïs Diony, ancien attaquant de Saint-Etienne, 11 buts cette saison en 23 matchs, toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 2 en 21 matchs. Andreas Ontonchi, qui n'est pas très loin hein, côté rodez, avec 9 unités en 20 rencontres.
Ce sera la battle, une des battles du match.
Ouais, tant qu'on parle de ces deux attaquants, Diony qui avait marqué le seul but d'Angers lors du match aller, le 16 septembre dernier, avec un début canon pour Angers, il avait marqué dès la deuxième minute de jeu. Andreas, lui, avait marqué le troisième but de la victoire, 4 buts à 1. Angers qui était venu dans un schéma de 4-4-2 et qui a un peu évolué depuis. Ils sont maintenant en 4-2-3-1, notamment hier avec l'absence de Diony touché à une cheville. Au niveau du mercato, on rappelle qu'il se termine demain à partir de minuit en Arabie Saoudite. Ça se termine ce soir, pas d'offre pour vous
1er février à minuit.
Oui, c'est
jeudi
ça.
Soir. Ouais.
Pas d'offre pour vous, Stoneman Bow.
Non, pas d'offre.
Vous confirmez ?
Je confirme.
Vous restez les 6 prochains mois à Rodez ?
Je confirme.
Parfait. Côté Angers, ils ont signé Esteban Le Poll, meilleur buteur de National avec 12 réalisations. Il vient en provenance d'Épinal. Côté départ, Jean-Matteo Baoya, transféré à l'Eintracht Francfort. Bon, vous me pardonnerez mon accent allemand. Il y a quelques jours, c'était pour une indemnité de 13 millions d'euros. Peut-être que le point faible côté Angers, c'est tout simplement le poste de gardien de but. On va en reparler parce que c'est aussi le cas de Rodez. Yaya Fofana qui est parti à la CAN côté Côte d'Ivoire, récemment qualifié pour les quarts de finale grâce à leur victoire contre le Sénégal. C'est Malvin Zinga qui prend la place dans le 11 type de Alexandre Dujeu. C'est le cas également pour Rodez, puisque Lionel Messi poursuit son aventure avec la République démocratique du Congo. Il jouera d'ailleurs ce vendredi à 21h. Vous suivez l'aventure de Lionel Messi ?
Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, je suis congolais comme lui, donc je suis d'autant plus, ouais.
Et vous restez en contact avec lui ? Est-ce qu'il a le temps d'échanger pendant cette CAN ?
On s'est écrit ce matin.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'il a énormément de messages. Donc, c'est normal.
Il y a beaucoup d'admiratrices. Hein.
Mais on essaie d'être en contact, de l'encourager. C'est très bien ce qu'il fait. Et, qu'il profite pleinement.
Ah ouais, là, on déjoue les pronostics.
C'est assez rare de se qualifier jusqu'en quart de finale de la CAN sans avoir gagné encore un seul match, quand même, Stone.
C'est vrai, c'est fort.
Que des matchs nuls pour l'instant pour la République démocratique
du Congo.
C'est
un peu les Suisses de la CAN.
Il y a un peu de ça. Et Lionel Messi qui a marqué le tir au but vainqueur face à l'Égypte. Rendez-vous ce vendredi face à la Guinée, c'est ça, hein, si je me trompe pas.
C'est ça.
21h pour le coup d'envoi de ce quart de finale de CAN. Bref, un duel de attaque pour cette rencontre entre Angers et Rodez. 36 buts chacune, derrière Auxerre et son attaque de feu, 45 buts marqués depuis le début de la saison, mais aussi une belle défense pour Angers qui n'a pris que 21 buts, 3e meilleure défense. Rodez dans ce classement-là est 19e avec 34 buts pris, c'est peut-être un des points faibles de Rodez. Seul Dunkerque a fait moins bien avec seulement 35 buts, avec 35 buts pris depuis août dernier.
Déjà.
Oui, j'aurais dû changer effectivement. C'est vrai que la défense, c'est peut-être la stat améliorée côté Rodez, le domaine amélioré côté Rodez.
Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est la manière dont on joue, c'est aussi un choix, c'est une vision. Donc on peut pas dire la défense ou que l'attaque, parce que si on met autant de buts, c'est parce qu'on prend des risques avec un bloc haut, avec des défenseurs qui sont hauts. Donc faut aussi accepter de concéder plus d'occasions. Après effectivement, c'est surtout les buts sur coup de pied arrêté, sur phase arrêtée qu'on doit réduire. Et je pense que si on en concède moins, ce sera déjà une bonne partie du travail de fait.
Est-ce que c'est parce que pour l'instant vous n'avez pas pris part à beaucoup de matchs avec Rodez qu'il y a ce petit manque défensif ?
Non, j'aurais pas la prétention de dire ça.
Bon, c'était le moment où il fallait se faire mousser un petit peu, Stone Mambo.
Finalement, quand on regarde ces stats d'Angers et cette bonne défense, on se dit qu'avoir planté 4 buts au match aller face à eux, c'est une sacrée perf. Hein.
Ouais, effectivement. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis ce match-là, c'est un peu un tournant pour eux.
Ils ont un peu resserré les boulons. Vous attendez à un esprit de revanche, justement, parce que les fesses sont encore rouges quand même chez les Angevins, là, non?
Bah, esprit de revanche, je sais pas, mais bah, c'est sûr qu'ils auront un cœur de se relancer par rapport à leur défaite d'hier. Et voilà, c'est une équipe qui a des hautes ambitions, donc je pense qu'ils voudront gagner, mais nous aussi.
Évidemment, rendez-vous ce samedi pour cette rencontre Angers-Rodez. Stone Mambo qui est notre invité dans le club 100 et or.
Intégrale 100 et or sur Totem. Totem, la seule radio qui diffuse tous les matchs du Rodez Aveyron Football.
On n'a pas précisé, hein, mais évidemment l'intégrale 100 et or, puisque vous retrouvez la rencontre en intégralité ce samedi à partir de 18h50 avec notamment Jean-François Tefo pour cette rencontre face à Angers. Stone, on va terminer sur un aspect un peu plus individuel. Vous êtes blessé mais intégré donc à cette équipe de Rodez, formé à 3, vous avez connu le grand bain de la Ligue 2 à 20 ans seulement. Vous avez débuté notamment avec les Stacks en 2019 jusqu'en 2021, puis vous avez fait une étape à Orléans. Vous êtes un gabarit d'un mètre 84. Est-ce que vous confirmez?
Je confirme.
Stat officiel, on n'est pas passé chez le médecin. Alors, le club vous avez présenté comme disposant d'une très bonne vision de jeu, lui permettant de relancer aisément le jeu. Il est aussi un élément redoutable sur coup de pied arrêté. Ça, c'était votre présentation. Vous en avez fait l'étal, hein, puisque contre Monaco, vous avez utilisé ce domaine pour revenir à un but partout. C'est un des domaines forts chez vous?
Ouais, on peut dire ça, même si je pense que je peux encore progresser là-dessus, mais c'est vrai que bah de manière générale, j'aime bien les duels aussi bien défensifs que offensifs, les gagner de préférence. Et bah après ouais, bah le coup franc était super bien tiré par Antoine et j'étais dans la bonne zone. Donc voilà.
Il y a plus qu'à pousser le ballon.
Ouais, presque.
Presque.
C'était votre premier moment fort de la saison, vous diriez, ou
clairement ouais.
Bon, peu de temps en tout cas après votre arrivée cet été, vous avez connu une petite blessure qui vous a écarté justement des terrains pendant presque un bon mois et demi. C'est difficile de s'intégrer et de se blesser tout de suite quand on est joueur?
Ouais, c'est difficile parce que déjà je ne suis pas arrivé pendant la prépa.
Et on vous êtes arrivé à toute fin du mercato.
À toute fin du mercato, donc la prépa c'est un moment où on s'intègre au groupe, où on crée des affinités, donc j'ai raté ce moment-là. Et c'est vrai que le fait de se blesser rapidement, ça m'a mis aussi hors du groupe. Et le fait de ne pas voyager avec l'équipe, de ne pas être sur le terrain avec eux, ça crée encore plus de distance. Et après, c'est vrai que c'était difficile de revenir, d'autant plus que l'équipe, elle tournait bien, les joueurs étaient performants. Donc, se faire sa place, c'était pas facile. Et je continue à travailler, m'accrocher. Puis j'ai pu avoir ces opportunités fin d'année, en Coupe de France et en début d'année. Et là, malheureusement, j'ai encore un petit contretemps de nouveau, mais... c'est dans ma nature de persévérer, donc je continue à bosser.
Comment ça va d'ailleurs?
J'ai fait des examens ce matin et donc ça a l'air moins grave que ce qu'on aurait pu penser. Donc je pense que...
Cuisse encore?
Ouais, c'est ça, cuisse de l'autre côté, enfin cuisse droite, à l'ischio. Mais je pense que peut-être que ça prendra une semaine, peut-être deux semaines maximum, mais j'espère pouvoir être... de retour au moins à l'entraînement déjà.
C'est ce qu'on vous souhaite évidemment, de revenir le plus vite possible sur les terrains pour aider évidemment Rodez dans sa quête du maintien. On parlait de l'intégration, ça passe par quoi justement d'être intégré en étant blessé? Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous réunissez avec l'équipe? Ça peut être des repas, des activités à droite à gauche. Est-ce qu'on s'intègre via ces activités-là, ces moments-là?
Ouais, effectivement. Après, ça dépend de la nature de chacun. Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément... avoir des moments en dehors du terrain avec les autres. Mais c'est vrai que ça peut passer par un petit resto de temps en temps ou un petit ciné, enfin des choses comme ça.
Vous n'êtes pas le leader de la fiesta, quoi, si je comprends bien.
Ouais, non, je ne suis pas le leader de la
fiesta. Mais ça vous arrive quand même de participer aux événements organisés par l'équipe, justement, pour créer des liens.
Ouais, bien sûr, évidemment.
Okay. Ça passe par là, justement, cette forme d'intégration?
Ouais, c'est ça. Passer, en fait, apprendre à se connaître les uns les autres. Et je pense que c'est... plus les liens sont soudés dans un groupe, mieux on se connaît, plus ça permet aussi de développer des affinités sur le terrain et ouais, ça passe par là.
J'allais venir, il y a un lien entre l'extérieur du terrain et le terrain?
Je pense qu'il peut y avoir un lien. C'est pas une vérité absolue, mais je pense qu'il peut y avoir un lien dans cette certaine solidarité. Et je pense que quand on connaît l'autre, quand on connaît ce qu'il aime bien, quand on connaît... Ses préférences, etc. Je pense que ça aide, surtout dans les moments difficiles, en fait, de savoir que on peut compter sur l'autre, on peut se reposer dessus, et que si nous, on est moins bien, il va nous aider. Je pense que ça crée des liens.
Est-ce que c'est mieux d'être réservé quand on arrive dans un groupe, notamment quand on arrive tardivement dans un groupe? Est-ce que c'est un handicap ou au contraire, c'est mieux vécu par les autres que si on arrive en disant « coucou, c'est moi » et en étalant ses affaires partout?
En arrivant presque au début du mercato, en disant « il va peut-être me piquer ma place », alors que sur la fin du mercato, il faut quand même lui laisser un petit peu de préparation physique.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Pas de vérité parce que, pour prendre l'exemple, je suis arrivé quasiment en même temps que Tyric. Et je pense qu'au niveau de la personnalité, Tyric et moi, on est opposés. Et lui, il est arrivé avec sa personnalité et il a été très, très bien accueilli. Et franchement, c'est un rayon de soleil dans le groupe. Et en même temps, moi, je suis arrivé avec ma personnalité. Je pense que j'ai aussi été bien intégré, bien accueilli. Et, je pense que c'est... Au final, je pense que limite, le plus important, c'est peut-être le terrain. C'est la meilleure manière de se faire accepter dans un groupe, c'est en étant bon sur le terrain, ça se fait naturellement.
Tyric Arconte, le fameux Titaille, évidemment, puisque c'est son surnom. Après, il faut rappeler que les conditions ne sont pas les mêmes. Vous êtes arrivé à Rodez pour jouer à Rodez en tant que joueur, peut-être sur l'avenir. Lui, il est prêté.
C'est vrai que lui, il est prêté. Mais après...
Ça n'a rien à voir dans la vision du groupe.
Moi, encore une fois, je pense que ça dépend de l'individu, de la manière dont il s'implique dans le projet. Et voilà, même si Tyric il est prêté,
ça se ressent pas.
Non, ça se ressent pas. Il a envie de faire la meilleure saison possible pour lui et pour le club. Donc il a investi.
Rappelons que depuis le début de la saison, Tyric Arconte, il a quand même marqué le premier triplé de l'histoire de Rodez en Ligue 2. C'est signe quand même qu'il n'y a qu'une bonne intégration. Ouais. On va dire ça comme ça.
Les prêtés sont investis à Rodez. Hein, on l'a
André Soutondji.
Ouais. Et puis l'année dernière avec Marvin.
Bien sûr.
Sinaïa aussi, bien sûr.
Bien sûr. C'est vrai que pour l'instant, ce système-là de joueurs prêtés fonctionne plutôt bien à Rodez, et notamment cette saison avec André Soutondji et Titaille, Tyric Arconte. Seulement Beau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Ouais,
merci beaucoup.
On vous souhaite évidemment un bon rétablissement au niveau de votre cuisse et merci. Qu'on vous retrouve le plus rapidement possible sur les terrains.
Merci beaucoup.
Totem, le club sang et or.